Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute.
Chaque époque a ses clichés sur les bandes de jeunes plus ou moins délinquantes. Après les blousons noirs des années 50, il y a eu les loubards des années 70, et depuis les années 80, les médias parlent des jeunes des cités. Mais que deviennent donc ces jeunes 10, 15 ans plus tard? Yvon Attonga a grandi dans la cité, à Villiers-le-Bel, il a fait sa part de bêtises, comme il dit, mais aujourd'hui il est cadre à la SNCF. Il raconte son parcours dans un ouvrage qui s'appelle « Petit frère, comprendre les destinées familiales ». Ce livre, il a eu besoin de l'écrire après le meurtre en 2016 de son petit frère Wilfried dans un règlement de compte. Yvon est alors hanté par une question: pourquoi son frère n'a pas échappé aux embrouilles alors que lui a réussi? Pour l'aider à y répondre, il fait appel à Isabelle Coutan, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Elle avait rencontré son frère au début des années 2000 dans le cadre de sa thèse sur la délinquance juvénile. Comment échapper à l'attraction qu'exerce la culture de rue? Pourquoi dans une fratrie l'un s'en sort et l'autre pas? Peut-on quitter le ghetto? Il arrive régulièrement qu'un projet en sciences sociales soit initié non pas par la chercheuse, mais par quelqu'un qui connaît son travail et lui demande d'enquêter sur son histoire et sa famille. C'est ce qui s'est passé pour ce livre. Isabelle Coutan a mené des entretiens sociologiques avec les proches des frères Attonga. Et ça produit un type de recherche très intéressant qui est ancré dans la vie intime des gens.
Avant de rencontrer Yvon, j'ai rencontré Wilfried, son petit frère, au début des années 2000. Moi, j'étais étudiante, je faisais une thèse de sociologie sur les sorties de délinquance. Et donc, je m'étais intéressée à un dispositif d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse qui préparait des jeunes qui avaient eu maille à partir avec la justice au métier de l'animation. Et Wilfried était l'un d'eux. On s'était retrouvés pour faire un entretien. Et donc, voilà, la question, c'était déjà, pourquoi t'as fait, enfin, comment tu t'es retrouvé dans cette formation d'animateur? Et puis de là, il avait déroulé son fil en expliquant aussi pourquoi il s'était retrouvé embringué dans la rue, dans cet engrenage de la rue. Les jeunes, ils disaient, on se fait engrener. Donc ça, c'était en 2001. Je l'ai rencontré ensuite en 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo, avec Mehdi Aoudi, qui fait du documentaire. On avait fait un travail pour Arte Radio, dans l'idée, au départ, de faire son portrait, de voir ce qu'il était devenu. 15 ans plus tard, il s'occupait d'un club de boxe, toujours à Villiers-le-Bel.
J'aime mon ghetto, mais je sais que je vais le quitter. Mais je ne pourrais pas le quitter comme ça.
Au bout de plusieurs mois, en fait, on n'avait plus de nouvelles de Wilfried et on a appris que finalement, il avait été assassiné dans un règlement de compte. On a décidé de quand même poursuivre ce travail. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré ses frères. Donc d'abord le frère aîné. Et puis Jean nous a invités au lancement d'une association de quartier, Ghetto Star No Limit, créée par Yvon. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois.
Quand on entend Wilfried dans le documentaire d'Arte Radio, il s'apprête à emménager avec sa compagne et ses filles dans un pavillon qu'il vient d'acheter dans une commune voisine. Et c'est au moment où il pense quitter le ghetto, comme il dit, que le ghetto le rattrape. Yvon a donc voulu comprendre pourquoi. Mais travailler avec une sociologue, ça implique de transformer sa vie en objet d'études scientifiques. Et ça ne va pas de soi.
Et donc en travaillant avec Isabelle, lorsqu'on a eu ce projet de livre, elle m'a proposé en fait de lire un livre de sociaux pour que je sache à quoi ça ressemble et savoir si c'est ce que je voulais ou pas, etc. Donc j'ai pu étudier la France des Belloumi. J'ai trouvé le livre intéressant, mais j'avais l'impression que c'était plutôt un professionnel qui étudiait une bête étrange et qui disséquait un peu comme on faisait à l'école cette bête-là et qui essayait de comprendre qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je lui ai dit: Isabelle, moi je veux, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'émotion. Je veux vraiment qu'on rentre dans l'histoire.
Alors, La France des Belloumi est un livre de 2018 du sociologue Stéphane Beau, qui a beaucoup travaillé sur les parcours d'enfants de milieux populaires, en particulier immigrés. Dans ce livre, il a interrogé une fratrie de 8 enfants d'immigrés maghrébins sur 30 ans de leur quotidien pour essayer de saisir les ressorts de leur ascension sociale. Le livre est très beau, mais c'est sûr que le sociologue est en position de surplomb.
Est-ce qu'à un moment, la position de surplomb n'est pas inévitable? Est-ce que c'est pas ça aussi le travail de sociologue?
Il y a un texte de Pierre Bourdieu que j'aime beaucoup dans La misère du monde qui s'appelle L'espace des points de vue. Et cette idée, effectivement, que le sociologue, ce qu'il a de spécifique, et moi je m'inscris quand même là-dedans, c'est qu'en fait, comme il peut recueillir plusieurs points de vue sur le monde social, il a un point de vue spécifique, c'est d'être le point de vue sur les points de vue. Et donc c'est effectivement une forme de surplomb. Et c'est ce qui fait que ça peut être perçu comme une science un peu une forme de domination scientifique aussi, très objectivante. En même temps, ce type d'enquête s'y prêtait à l'émotion, puisque c'est aussi autour d'un deuil. Donc, il y avait des entretiens qui étaient forts en émotion pour les personnes et pour moi, de l'autre côté. Et donc, il suffit, en fait, de laisser la place à ce qu'on vit dans l'enquête, dans le texte, pour avoir une forme d'écriture, effectivement, qui paraît, en tout cas, moins objectivante.
Le fait qu'il y ait une certaine empathie chez Isabelle, c'est ce qui permet, en fait, de faire naître ce livre. Parce que je n'aurais pas pu le faire avec qui que ce soit. C'est vraiment le lien qu'elle avait avec Wilfried, le fait qu'elle vienne au procès, qu'elle vienne à la création de l'association. Donc tout ça crée déjà un lien empathique qui, derrière, crée un lien de confiance. Parce que quand je fais ce livre et je ne suis pas anonymisé dans ce livre, j'embarque toute ma famille, tous mes amis, etc. Moi, il faut que je le porte derrière tout ça. Bon, c'est pour mon frère, oui, mais il faut que je le porte, il faut que je l'assume. Et je peux le faire uniquement si je sais que Isabelle est une personne intègre, une personne qui va avoir ce souci pour moi et pour les personnes qui sont enquêtées.
Dans leur livre, on a donc les récits d'Yvon et des proches de Wilfried qui donnent une idée concrète de ce que ça veut dire de grandir dans les années 80 dans une famille congolaise, chrétienne et polygame, avec 11 enfants et deux mamans dans un 3 pièces dans l'une des communes les plus pauvres de France. Et à la toute fin, il y a une postface plus théorique où Isabelle Coutant assume cette position de surplomb et où elle donne des clés de compréhension plus générales, notamment sur les voies d'entrée dans ce que les sociologues appellent la culture de rue. Et la première chose qui joue souvent, c'est un rapport difficile avec l'école. Wilfried, en l'occurrence, avait décroché à l'adolescence.
Mon papa, depuis qu'on est tout jeune, nous a toujours dit d'aller lire et nous a toujours expliqué que réussir et réussir à changer de milieu social et d'avoir une meilleure vie pour nous et pour nos enfants, ça devait passer forcément par l'école. Donc ça, on le comprenait parce qu'il nous le disait, mais on n'avait pas les méthodes. Ouais. On ne savait pas comment faire, on ne savait pas qu'il était important de faire ses devoirs tout de suite. Donc on rentrait à la maison, on jetait le cartable et puis on descendait au quartier avec les amis.
Je trouve ça intéressant quand Yvon dit que son père n'avait pas les méthodes. C'est-à-dire qu'il savait en théorie que l'école c'est important, mais lui étant analphabète, il n'était pas en mesure de leur lire ou de leur conseiller des livres. Il lui manquait ce que Pierre Bourdieu appelle le capital culturel.
Un des avantages majeurs des enfants des catégories intellectuelles, par exemple, outre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, bon, outre le fait qu'ils ils ont une attitude de rapport, un rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail dans le temps. Oh, tu laisses tomber ça. Fais plutôt ça maintenant. Alors là, tu ferais mieux d'aller jouer au foot, t'es trop fatigué. Ou bien, fais d'abord ça, puis feras ça après, etc. Bon. Ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. C'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu.
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont travaillé cette question dans leur ouvrage « La reproduction ». Ils constatent d'abord une corrélation entre l'origine sociale et l'orientation scolaire. En gros, les enfants d'ouvriers font moins d'études supérieures que les enfants de cadre. Et ils montrent que c'est parce que l'école ne fabrique pas de l'égalité comme elle prétend le faire. En reproduisant les codes, les références du modèle culturel bourgeois, l'école sélectionne et valide ceux qui sont capables de se les approprier. Et donc l'école non seulement reproduit, mais elle légitime les inégalités existantes, puisqu'on pourra toujours dire « si tu n'as pas réussi dans la vie, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé à l'école ». Or, ce sont ceux qui sont en échec scolaire qui compensent souvent dans la culture de rue.
Ce qui a précipité l'engagement dans la rue, c'est le décrochage. Enfin, le fait, à un moment donné, de s'être retrouvé en dehors de l'école, ça s'est bien montré aussi par la sujet de la délinquance. Et donc, il y a cette question aussi qui est un concept de la sociologie interactionniste des années 60, sociologie américaine, de l'action du stigmate. Et donc, d'avoir été stigmatisé. Enfin, d'abord à l'école, parfois dans la famille. Et cette idée que finalement on intériorise, en fait, ça fonctionne aussi comme des prophéties autoréalisatrices. On finit par intérioriser l'image que les autres ont de nous. On finit par être ce que les autres nous disent qu'on est. Hein. Et donc les institutions, évidemment, institutions policières, institutions judiciaires, voisinage, mais que voilà, c'est un processus progressif et qu'au fur et à mesure de cette assignation d'une identité déviante, on finit effectivement par se reconnaître dans un groupe de pairs avec lesquels on fabrique une sous-culture déviante, donc cette fameuse culture de rue qui a été aussi travaillé par David Lepoutre, Philippe Bourgois. C'est-à-dire qu'on est déviant vis-à-vis de la société dominante, mais vis-à-vis du groupe, on n'est pas... On obéit à des normes, c'est pas anomique. On est d'autant plus attiré par la rue qu'on a une place fragile dans les autres cercles d'existence.
Isabelle Coutant mentionne le sociologue David Lepoutre qui explique bien cette notion de culture de rue dans son ouvrage « Cœur de banlieue ». À partir de la préadolescence, en particulier dans les petits groupes masculins, dans la tension et le regard permanent entre les grands et les petits du quartier, au moment où l'avenir social s'assombrit à travers la relégation scolaire, cette culture de rue, basée sur la réputation, l'honneur, le courage, la virilité et la performance, permet à une partie des adolescents de retrouver une forte estime de soi à travers la réputation et le respect qu'ils peuvent acquérir en quelques coups d'éclat. La déviance par rapport aux normes scolaires est le premier terrain de ces exploits.
La rue, ça apporte d'abord des raisons d'être et une existence sociale. Les jeunes que j'avais rencontrés expliquaient qu'on se fait un nom dans la rue. Dans la sociologie de Pierre Bourdieu, qui est la sociologie qui m'a nourrie, on parle aussi de capital symbolique, au-delà de la question aussi des rétributions économiques éventuelles. On peut aussi se faire de l'argent dans la rue. Mais moi, ce qui m'avait frappée en discutant avec ces jeunes, c'était d'abord cette existence, la réputation aussi, se faire un nom.
J'ai pas été à l'école, quoi, moi, je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu te fais niquer ta mère, et puis c'est tout, alors tu me laisses, vas-y, bouge.
Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que la culture de rue, c'est quelque chose que nous, on a, qui permet de développer notre ego, notre orgueil, et surtout d'exister. On existe à travers notre famille de la rue, à travers notre quartier, à travers le mur qu'on tient toute la journée, et c'est tout ce qu'on a. En fait, le nom de notre quartier, c'est notre titre de propriété.
Dans cette culture de rue, il y a les amis, le rap, mais aussi les bagarres entre bandes, entre quartiers, les mises à l'amende, les jeux de pouvoir entre les grandes gueules, et puis le vol à l'étalage, le deal, les gardes à vue. Mais pendant longtemps, la participation des adolescents à cette culture de rue était analysée comme étant presque toujours transitoire.
De manière générale, la délinquance, c'est associé à la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous les travaux des années 70 sur les loubards. C'est un temps et c'est presque... Il y a cette idée dans les milieux populaires que pour les garçons, il y a une forme de tolérance aussi, en tout cas par rapport à la petite délinquance. Il faut bien que jeunesse se passe.
Le palais des sports parisien à l'heure du rock'n'roll, ça c'est du sport. Remarquez que, quelles que soient les circonstances, si on perd le nord, en revanche, on ne perd jamais le rythme.
Et il y avait cette idée que finalement, le marché du travail, en tout cas dans le milieu ouvrier en général, le marché du travail assurait lui-même la conversion, en fait, la sortie du monde des bandes. Le marché du travail, le service militaire à l'époque, et le mariage, la mise en couple. Voilà, il y avait une forme de sortie presque spontanée du monde des bandes pour la majorité des jeunes. Et l'idée aussi que le passage à l'âge adulte fait qu'on se range, c'est aussi, ça reste aussi, malgré tout, même aujourd'hui, ça reste la norme, en fait. La plupart des jeunes, en fait, quand ils se projettent, enfin moi, quand je les interviewais sur leur projection dans l'avenir, c'était avoir un travail, une femme, une maison, une voiture. Et donc, c'est des rêves très standardisés, on va dire.
Je voulais juste un portail avec des pointes. Moi, je suis pas compliqué. Moi.
Ah, Wilfried.
Parce que j'aime bien quand il y a des pointes. Sans pointes, j'aurais pas pris. Ça fait patron.
Là, on rentre alors.
Ouais. Là, on rentre. Donc, là, une petite véranda classique. Mais tout ça, c'est moi, je l'ai cassé. Ça fait longtemps que j'ai le projet d'acheter une maison. Là, j'ai eu une occasion, je l'ai prise. Donc, c'est pas loin de chez mes parents. C'est bien, quoi.
L'idée, c'est... Après, c'est comment on peut s'en sortir. Et en plus, moi, les années 2000, il y avait un fort chômage. Mais bon, dans les quartiers populaires, il y a toujours un taux de chômage important. Et en plus, dans un contexte où les emplois non qualifiés sont plutôt des emplois dans le secteur des services, c'est plus compliqué. Parce que le monde ouvrier reposait sur des valeurs de virilité qui étaient finalement très homologues avec les valeurs de virilité des groupes, des bandes. Or, dans le secteur des services, ce sont des valeurs qui sont contradictoires avec les valeurs de la rue.
Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je ne les mets pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir.
Moi, je ne vais pas vous mettre des bas. Hein. Là, il y a un petit problème, là. Petit problème, parce que comme je ne vais pas le faire, à un moment donné, c'est faut qu'on voit si Marcel... Si Marcel peut revenir pour les mettre, elle. Parce qu'elle, en plus, comment on se fait, comme c'est une fille et tout. Je sais même pas pourquoi on discute, franchement, je vais pas le faire. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Marcel, on va pas les mettre.
Le sociologue Philippe Bourgois le résume bien. Le rêve macho-prolétarien de faire ses 8 heures plus les heures supplémentaires tout au long de leur vie d'adulte dans un atelier syndiqué à un poste difficile a été remplacé par le cauchemar d'un travail de bureau subalterne, mal payé et très féminisé. La période dans laquelle les frères Atonga arrivent à l'âge adulte s'avère donc moins favorable à la sortie du ghetto.
Il y a 5 millions de chômeurs, on va arrêter, on a 3 millions qui travaillent au noir. Je veux dire, ça fait 8, 9, 10 millions, ils disent ce qu'ils veulent. Toi, t'es à l'école, t'es un gentil étudiant. Demain, tu vas sortir, tu vas te retrouver chômeur, à la rue, sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Et tu seras comme nous, on est là dans un arrêt de bus.
Non seulement le chômage et la désindustrialisation compliquent l'intégration sur le marché du travail, mais leur quartier évolue, s'appauvrit. Presque tous les blancs partent, le trafic de drogue arrive, l'attraction de l'argent facile est plus forte. Et enfin, il faut mesurer aussi l'effet de l'évolution des politiques publiques.
Qu'est-ce qui a changé dans les années 90 par rapport aux années 90? C'est pas la même chose de grandir dans cette décennie-là. En quoi ça a changé?
J'ai pu l'observer parce que je regardais comment vivaient à cette époque-là mes grands frères. Ils avaient beaucoup plus accès aux maisons de quartier. On leur donnait beaucoup plus la possibilité de monter des projets. C'était beaucoup plus encadré. On avait, en étant encore plus jeunes, on avait un peu la police de proximité avec qui on faisait des sorties. Voilà, Aqua Boulevard. Des sorties, on faisait des matchs de foot. Donc ça créait une certaine proximité. Donc ça, c'était par rapport à la politique de la ville.
Tu as connu la police de proximité, toi?
Ouais. Même nous, on les respectait quand on les voyait. Des fois, moi, j'étais petit, j'ai caillassé comme tout le monde. Quand on se met à caillasser, Jean-Pierre, ah, c'est moi, on s'arrêtait. Parce que pourquoi? Il y avait un respect.
Mais nous, quand on est arrivé à notre adolescence, en fait, tout s'est fermé. Tout s'est fermé, donc on s'est retrouvés, nous, dans la rue. La police de proximité s'est arrêtée. Donc les policiers n'étaient plus, ils étaient beaucoup moins proches que nous. Donc forcément, nous, comme on était dans la rue, ben, il fallait qu'on puisse défendre notre territoire puisque c'est tout ce qui nous restait, puisqu'on nous donnait accès à rien du tout. Donc il a commencé à avoir des frictions avec la police. C'était beaucoup plus de répression que de la discussion ou de l'échange.
Techniquement, la police qui faisait les sorties avec les jeunes dans les années 80, ce n'était pas encore la police de proximité à proprement parler, qui a été instaurée en 98 et supprimée à partir de 2003 par Nicolas Sarkozy.
Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance.
Le contexte des années 2000 est donc défavorable pour les jeunes adultes de banlieue. À tel point qu'Isabelle Coutan en conclut que c'est surtout l'ascension sociale d'Yvon qui doit être comprise comme étant une exception à la règle. On en revient donc à la question de la divergence de parcours entre les deux frères. Qu'est-ce qui a fait la différence? Cette question a justement été abordée dans le livre qu'Isabelle avait prêté à Yvon.
C'est la France des Belloumi sur l'histoire d'une famille issue de l'immigration algérienne et qui revient aussi sur les parcours. Alors là, à la demande d'une sœur, de la fille aînée dans cette famille. Et Stéphane Beaume met bien en évidence les différences effectivement entre filles et garçons. Les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. La disposition à la docilité acquise dans la sphère familiale sont transposables sur la scène scolaire et puis elles sont moins dans l'espace public.
Les 5 filles Belloumi, avec un père analphabète, une mère qui s'arrête en quatrième, les 5 filles Belloumi vont toutes obtenir des diplômes supérieurs, bac plus 3, bac plus 4. Donc ça m'a beaucoup intéressé, d'une part, la belle réussite scolaire de ces 5 filles, et d'autre part, en contraste, la réussite scolaire des garçons, beaucoup moins affirmée, puisque aucun des garçons n'a un bac général. Celui qui est le plus diplômé, Asdine, a un bac pro. Mounir, qui est le troisième, qui est né en 81, il a raté son BEP. Et Rachid, comme je l'ai dit, a redoublé 2 fois et s'est arrêté en fin de quatrième. Donc, il est ce qu'on appelle un non-diplômé.
Et puis aussi, mais bien en évidence, Stéphane Beau, dans ce livre, le lien, la différence entre les aînés et les cadets. La place se joue aussi, on voit très bien le rôle de l'aîné. En plus, les deux aînés, les deux sœurs aînées qui ont joué un rôle, effectivement, aussi de... Qui porte le projet familial et l'héritier du projet parental, c'est plutôt l'aîné, quoi. Il porte le projet d'ascension sociale des parents.
Les études sur les différences entre les aînés et les cadets sont stimulantes, mais elles ne sont pas forcément éclairantes pour les frères Atonga, qui sont très proches en âge. Dans leur cas, il y a surtout autre chose qui fait une différence, c'est qu'ils n'ont pas la même mère. Quand on demande à Yvon de revenir sur sa trajectoire pour identifier les moments clés de bifurcation, il insiste sur l'importance de l'attitude et des choix de sa mère.
J'ai pris un peu de distance avec, avec le quartier à l'été de mes 15 ans, parce que ma maman m'avait renvoyé au Congo-Brazzaville, donc notre pays d'origine, parce que je commençais à faire un peu de bêtises et pour que je me rende compte des difficultés qu'il y avait là-bas. Donc moi, ça a pu faire un électrochoc en moi, donc prendre un peu de distance avec le quartier, me concentrer un peu plus sur l'école. Et mon frère, lui, il a continué en fait dans cette mentalité de rue, en étant dans le quartier, en travaillant dans le quartier, en ayant ses amis dans le quartier. Donc j'allais beaucoup plus à la bibliothèque, j'étudiais un peu plus. Et puis ça m'a permis ensuite de partir dans un lycée général. Donc j'arrivais dans un nouvel environnement, un environnement que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas, puisque moi tous mes amis sont partis. Ils ont plutôt été orientés vers le professionnel. Donc là, il a fallu que je me recrée un groupe, que j'échange avec d'autres personnes qui étaient dans d'autres milieux sociaux, qui m'ont invité chez eux. Ben, j'explique dans le livre qu'il y a un ami qui m'invite chez lui à midi pour manger. Donc on va chez lui, et quand j'arrive chez lui, je vois une grande maison, alors que moi j'ai un petit appartement où on est 14 dans l'appartement. Là, je vois une grande maison, je vois un grand jardin, je vois un frigo américain. À l'époque, il met son verre et puis il y a des glaçons qui tombent dans son verre. Et c'est à partir de là où je commence à m'interroger et je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et c'est là où il me dit, ouais, c'est un entrepreneur, juriste. Donc dans ma tête, je commence à me poser des questions. Je me dis, OK, donc ça veut dire que si je fais ce métier-là, je vais pouvoir, moi, avoir la même chose. Donc c'est des interrogations comme ça, qui me permettent derrière de me concentrer un peu plus sur l'école. Et puis j'ai rencontré aussi des professeurs qui m'ont toujours dit que j'avais un peu de facilité, qu'il fallait que j'essaye d'aller un peu plus loin. Donc à partir de là, j'essayais de comprendre un peu, de me rapprocher de ceux qui avaient les meilleures notes dans la classe, qui derrière m'aidaient en permanence pour pouvoir faire les devoirs, etc., etc.
Mettre à distance la rue, ça représentait évidemment un gros effort personnel qui lui a permis d'aller dans un lycée général, puis de faire 2 ans d'éco-gestion à l'université. Mais il n'aurait pas pu y arriver tout seul. Ses professeurs l'ont encouragé, il a trouvé un ancrage dans d'autres groupes d'amis au lycée, et encore une fois, sa mère l'a aidé à résister à la force de rappel de la culture de rue. Yvon raconte une anecdote saisissante pour l'illustrer.
J'étais dans ma chambre, et j'ai des amis qui viennent me chercher à la maison, et c'est ma maman qui ouvre la porte, et quand elle voit les amis, elle sait que je suis en train de faire mes devoirs, j'étais à la fac, et elle leur dit « Non, Yvon, il n'est pas là ». Ben, ils sont partis, ils ont fait un braquage, ils ont pris 8 à 10 ans de prison. Donc, tous ces éléments-là, à un moment donné, ça fait un électrochoc en moi en me disant, ben là, t'as encore une chance, eh ben, essaye de pousser un peu plus loin. Et ensuite, au moment où Jospin était Premier ministre, il y a eu les emplois jeunes. Donc, j'étais emploi jeune, aide éducateur dans un collège de Villiers-le-Bel. Et à partir de là, il y a eu l'opportunité de la SNCF qui ouvrait, en fait, la possibilité à la diversité de rentrer à SNCF. Et moi, pour moi, c'était une occasion de pouvoir avoir un travail stable et de pouvoir par la suite construire ma vie.
C'est là qu'on voit que les politiques publiques, même celles qui ne transforment pas les choses en profondeur, elles ont quand même une influence sur la vie des gens. On l'a vu avec la suppression de l'approche préventive dans la police, mais aussi la création des emplois jeunes en 97, ou encore les politiques de recrutement de la SNCF dans les quartiers populaires.
Dans le milieu de la SNCF, je rencontre pas mal de personnes qui m'expliquent qui me pose la question, notamment un plus ancien que moi, qui me dit, t'es en CDI, pourquoi t'es pas en propriétaire? Je dis, j'ai pas d'argent. Il me dit, mais non, mais t'as un CDI, donc t'as de l'argent. Et c'est là où, en fait, il m'explique comment investir dans l'immobilier. Donc là, j'achète mon premier appartement, ensuite je fais construire ma maison. Mais c'est toujours, en fait, en rencontrant des personnes comme ça qui me guident et qui m'ouvrent une petite porte. Et puis je découvre un autre monde. Et aujourd'hui, ça, je peux le transmettre directement à mes enfants et je vois le résultat tout de suite dans mes enfants qui, eux, gagnent énormément de temps dans la vie par rapport à moi, d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui. Ma fille a fait des études en commerce international. Actuellement, elle est en Thaïlande en stage en entreprise. Elle étudie le mandarin. Voilà, mon fils, il est premier de sa classe.
Ce que je trouve frappant quand j'entends Yvon livrer son récit, c'est à quel point son travail avec Isabelle l'a amené à une grande réflexivité sur son parcours. Et ça rappelle que la sociologie est une science sociale que l'on peut s'approprier, qui permet de faire ce que Bourdieu appelle une socio-analyse, dans laquelle on prend conscience des déterminations sociales qui nous amènent là où on est.
En tout cas, quand on travaille sur des sujets comme les miens, et notamment, voilà, j'ai passé plusieurs années à travailler sur les quartiers populaires, c'était important pour moi que ça puisse aussi faire sens pour les populations concernées, parce que la sociologie, elle peut avoir une fonction émancipatrice. C'est aussi la question de la psychanalyse, hein. C'est que c'est en comprenant ce qui nous agit, c'est en comprenant les déterminismes qu'on peut un tout petit peu acquérir la liberté et s'émanciper.
Comprendre les déterminismes sociaux fait aussi que ça peut déculpabiliser et se rendre compte de la limite de nos marges de manœuvre.
Voilà, exactement, c'est ça. Et c'est à travers tous ces concepts, en fait, toutes ces analyses qui sont faites, qui me permettent de comprendre que c'est pas totalement de ma faute, parce que je le prenais quand même pour moi. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu sortir, extirper mon petit frère de la rue? Donc ça m'a permis, moi, à travers la postface et à travers le travail que j'ai fait avec Isabelle, de comprendre qui j'étais, pourquoi j'avais ce besoin de ne pas trahir le quartier, pourquoi j'avais toujours le besoin d'avoir cette ascension, effectivement cette ascension sociale, mais sans pour autant me couper du quartier, toujours revenir, monter cette association. Puis j'essaye, à travers l'association, de transmettre un peu aux petits frères, petites sœurs du quartier, pour qu'eux aussi essayent de gagner du temps sur la vie et qu'ils évitent de faire les mauvaises rencontres et de prendre les mauvaises habitudes.
Il n'existe pas de recette miracle pour quitter le ghetto. L'entrée dans la vie professionnelle et conjugale ne permet plus aux jeunes de sortir naturellement de la culture de rue. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sort pas seul. Il faut être soutenu par ses parents, faire de bonnes rencontres avec des professeurs, des amis, des collègues. Et surtout, il faut que les institutions publiques, qu'elles soient scolaires, policières ou culturelles, jouent leur rôle. Yvon ne pouvait pas, à lui tout seul, sauver son frère. Et s'il a réussi à quitter le ghetto, il lui reste une préoccupation, celle de ne pas le trahir, en aidant les autres petits frères à gagner du temps sur la vie.
Merci d'avoir écouté le podcast des Idées Larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arteradio.com. Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt.